Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 9 juillet 2011. Nos programmes pour cet après-midi. À 13h, du sport et résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Dirty Dancing. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voilà le magazine Automoto Vélo que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end.
Ce qui est dit dans ce bouquin peut suffire pour faire illusion sur le plateau du Rookie ou de Grand Journal de Canal+.
Ce qu'il y a de bien...
Tu voulais dire quelque chose.
Oui, je voulais dire par rapport à Dune, puisque j'en discutais avec ma copine hier, et je pense que je vais lui faire lire le bouquin. Parce qu'elle m'a dit Dune, elle m'a dit qu'à partir du moment où il y avait trois noms compliqués d'extraterrestres, elle décrochait, mais je vais lui faire lire ça. Alors, il parle que de Paul en plus.
C'est pas comme du médiéval fantastique où il y a un concours avec les lettres à tréma et le nombre de cas.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à du sport.
Bonjour.
Meilleur vœu de rétablissement à la copine de Thomas, justement, dont il était question dans l'intro, donc c'est pour ça que Thomas n'est pas là. Ceci dit, j'espère que vous profitez de ce temps superbe et magnifique pour écouter la radio, l'émission numéro 282 du supplément week-end. Ah, mais suis-je bête, si vous nous écoutez, c'est que vous en profitez déjà. Tant mieux, aujourd'hui, donc, c'est un programme plutôt orienté vélo, voiture et jazz.
Deux roues, quatre roues.
Deux roues, je sais pas s'il y en a beaucoup hein, pour cette émission. On va commencer en fait le supplément week-end avec une revue de presse assez amusante en fait et ironique, puisque en fait on va commencer par le magazine Zoo, qui est un gratuit qui est disponible dans certains lieux, principalement des supérettes culturelles, qui donc vient de sortir son numéro 33, numéro double, hein, comme tout le monde, juillet-août 2001. Alors attention, parce qu'il a été distribué en fait à Japan Expo avec une autre couverture. Là, la couverture, c'est les Schtroumpfs à Japan Expo. Ben, c'était une autre couverture. C'est pas indiqué en fait. Il y a aussi 8 pages à l'intérieur qui changent, puisque dans l'autre, on parle du phénomène Lolita, Gothic Lolita, GTO, Shonen et plein d'autres choses. Là, il est question plus, je vais dire, donc à la fois de la sortie du film, qui est un petit peu esquissée. On parle plus des Schtroumpfs en tant que bande dessinée que du film. Il faut dire que, la bande-annonce du film fait royalement peur pour ceux qui l'avaient vu. Ce qui est très amusant, c'est que dans le numéro précédent, ils avaient parlé de Guy Delcourt à la suite donc d'une interview en 2 pages sur Guy Delcourt. Et là, ils parlent de Soleil, puisqu'ils interviewent donc Mourad Boudjellal, patron fondateur de Soleil, qui vient de revendre ses parts à Guy Delcourt de sa maison d'édition. Sauf que dans l'interview, Olivier Thierry n'était pas encore au courant, donc il n'y fait pas allusion. D'où cette conclusion, ce mot de la fin de Mourad Boudjellal. J'ai pu mesurer aussi le fossé qu'il y a entre la BD et le monde normal. C'est le rugby qui fait que je suis invité au vœu du président de la République, pas la BD. Elle souffre d'un déficit de reconnaissance énorme. Et ça, ce sont les générations précédentes qui en sont responsables, les spécialistes de la branlette. C'est encore plus drôle, en fait, quand il dit que c'est vrai que Soleil avait un petit peu souffert, mais que là, il revient aux affaires. Il va s'occuper de sa maison d'édition. Et oui, effectivement, puisque au moment de la parution, donc, de Zoo, il a revendu à Guy Delcourt. Donc un dossier sur Japan Expo, un autre avec sur le Comic Con Paris avec Jeff Scott Campbell, et un dossier sur les Schtroumpfs, c'est dans le Zoo, disponible gratuitement en supérette culturelle un petit peu partout. C'est le numéro 33 de juillet-août. Rangers Western, comme ça, pour le fun. Plus cinéma muet, en fait. On va entamer les sorties bande dessinée avec Coco en Angleterre, qui est un manhwa, donc une bande dessinée chinoise, éditée et plus exactement traduite par Chiao Pan. Ça faisait longtemps, en fait, que Patrick Abri n'avait pas sorti de nouveaux bouquins, et dessiné par Coco Wang. Et c'est une autobiographie assez ironique, humoristique, je veux dire, de Coco Wang. En 99, elle a été envoyée par ses parents quand ils sont allés travailler au Royaume-Uni. Elle a été envoyée en Angleterre pour apprendre en fait à parler anglais et aussi pour faire des études. Il faut savoir que jusqu'à tout récemment, les Chinois n'avaient pas le droit de visiter par tourisme un pays étranger. Les premiers visas touristiques chinois sont arrivés. Délivré par le pays, hein, pour ses ressortissants, a été délivré que depuis environ 2 ans. Donc, quand un ressortissant de la Chine communiste sortait de son pays, c'était pour des raisons diplomatiques, professionnelles ou un échange culturel. Bon, Coco Wang vivant à Hong Kong, ancienne colonie britannique ayant des règlements stricts, lui était plus facile de partir à l'étranger, et du coup, elle a pris son baluchon et elle est partie en Angleterre. Du coup, la jeune Coco s'est retrouvée dans un lycée à l'âge de 15 ans. Et à la sortie de celui-ci, elle décide de suivre des études d'art à Londres, ce qui voulait dire déménager et vivre seule. Et c'est là que s'ouvre cette suite de petites histoires. Son emménagement dans une chambre sous-louée, avec un propriétaire qui l'intimide, la découverte de la terrible différence de niveau de vie entre la Chine et Londres. Et oui, ça coûte beaucoup plus cher, donc du coup, la nécessité de trouver un emploi à côté de ses études. Donc la découverte aussi du monde du travail, et qui plus est à l'européenne. Coco en Angleterre, c'est aussi surtout les chocs culturels. Étudier les beaux-arts en Europe, cela veut dire dessiner des nus, avec des modèles posants pour les étudiants. Pour une chinoise, je vous laisse imaginer la surprise et la gêne. Ah mais, le monsieur se déshabille là. Ou encore le fait que dans un examen d'études supérieures, on ne demande pas de ressortir mot à mot ce qu'il y a écrit dans les manuels. Non, non, la question n'est pas d'annoncer, mais de donner son point de vue et de mélanger les sources, donc de s'être documenté par ailleurs. L'éducation en Chine est plus un moule unique plutôt qu'invité au développement de la personnalité. Coco étudiant dans les arts plastiques, je vous laisse imaginer la différence de conception en fait. Et puis, il y a le retour au pays, et les différences culturelles se font dans l'autre sens. Par exemple, pour un oriental, on ne serre pas la main. Ah, et du coup, Coco, ouais. Bref, c'est dessiné dans un style très cartoon, des petites anecdotes. Elle les a publiées en Chine, dans une revue hongkongaise, sous le nom de « Partir seul, étudier à l'étranger ». Elles nous reviennent, compilées par Chiao Pan. C'est une vision certes pas directe de notre pays, puisqu'elle parle surtout quand même du Royaume-Uni, mais c'est toujours rafraîchissant de voir un regard tiers les us et coutumes de l'Europe. Coco en Angleterre par Coco Wang, c'est traduit aux éditions Chiao Pan, et en soi, c'est une barre de bonheur. C'est assez fun parce que l'auteur a aussi pas mal d'autocritiques de son côté, et d'un autre côté, on relativise un petit peu aussi pour notre pays. C'est vraiment mignon. Refuser de partir, bon. Fausse manip de ma part, ça arrive quand même. On va entamer après c'est pas franchement du manhwa au sens manga et tout ça, hein. Attention, hein, c'est plus du dessin de presse, hein, que fait Coco. Mais on va partir dans littéralement autre chose, on va partir dans la ligne claire, et on va partir sur les moteurs 4 temps, sur les belles voitures telles qu'on faisait dans les années 50-60, des belles, belles caisses. Olivier Martin et Calixte produisent ensemble les enquêtes auto de Margot. Le troisième tome s'appelle Deux chevaux pour une égérie, c'est dans la collection Calandre chez Paquet, dont on avait déjà parlé avec Mille Miglia, et dont on avait dit qu'ils avaient cultivé à la fois une certaine nostalgie et culture de la bande dessinée franco-belge associée à une certaine histoire technique, et là, dans le cadre de la collection Calandre, une histoire automobile. Là, on est en France, en 1961, et c'est à ce moment-là que se déroulent les aventures, celles de Margot Palissandre, journaliste à l'auto-revue et aussi pilote de course. Comme Margot est un beau petit lot, et ben elle a été approchée par Citroën et par le couturier Théophile Saint-Cardon pour être l'égérie d'une série archi-limitée de la deux chevaux, la Margot. Mais à partir du moment où elle amène son beau petit minois sur les défilés, une suite d'incidents mystérieux se produisent. Dégradation, vandalisme, sabotage, agression, vol. Quelqu'un en veut vraiment à cette série limitée, au point de tout faire pour en faire échouer la campagne publicitaire. Qui est derrière toute cette machination? Contre qui? Et dans quels intérêts? Margot, en plus d'être fort jolie, n'oubliera pas son instinct de journaliste et risque tout et d'as du volant. Olivier Martin et Calixte ont une réelle passion pour la bande dessinée franco-belge, puisqu'on aperçoit en caméo Fantasio, Vic et Paul sans Yoko Tsuno, restons raccord avec les BD de l'époque, hein, puisqu'ils se rencontrent en Noël 69, le colonel Ulrich Nestor, issu de la série Tintin, mais hélas, cette BD est réalisée informatiquement avec un logiciel de dessin vectoriel, et cela se sent. Il maîtrise le dessin puisque les personnages sont expressifs, correctement dessinés, cohérents, mais la perfection du trait avec un dessin vectoriel, cela donne un dessin froid, vraiment froid, au sens de raide. La barbe du Molette, par exemple, un personnage secondaire, où chaque poil est placé sur un quadrillage, ça fait un petit peu artificiel, quoi. Ça fait raide, à la limite, il s'est fait des implants, quoi, sur la barbe, ça fait un peu bizarre. L'autre problème, c'est que les véhicules, une bonne partie des décors, n'ont pas été dessinés, mais sont réalisés à partir de modèles en 3D mis en scène. Et cela donne immédiatement des soucis de perspective, car du coup, ces objets en 3D ont une perspective archi précise qui évidemment jure avec l'interprétation de l'ensemble du décor par le dessinateur. Ah oui, imaginez. Prenez un objet en 3D, vous modélisez vous avez une déesse qui a été modélisée, vous placez la caméra de telle manière, etc., donc dans tel angle et tout. Et à ce moment-là, ben, ça ne correspond pas avec l'interprétation que vous avez faite, en fait, de la route, de manière à ce qu'elle ait un aspect, à ce qu'elle ait un style, à ce qu'elle ait un... à ce que, du coup, on exagère un petit peu, on triche un petit peu, volontairement, avec la perspective, pour lui donner un aspect beaucoup plus lisible. Et malheureusement, ben, ça donne des voitures qui flottent un peu, ou bien qui sont étroites plus que de raison par rapport à des maisons et tout ça. Ça jure avec l'ensemble du décor par le dessinateur, c'est vraiment dommage. Alors l'usage du logiciel Adobe Illustrator ou de Manga Studio, qui lui est un logiciel beaucoup plus typé pour la bande dessinée, pour produire une bande dessinée franco-belge, est à chaque fois un piège. La spontanéité d'un trait se perd, ce que l'on gagne en précision grâce à l'outil, et ben on le perd immédiatement en ambiance quand on ne maîtrise pas vraiment l'outil. Sur des faits, tu les fais. Chaque bâtiment est impeccable, chaque véhicule est sorti d'usine, rutilant de n'avoir jamais roulé ailleurs que dans un hall d'exposition ou une brochure technique. Les affiches publicitaires sont plaquées comme des textures et n'ont aucune tache. Les papiers peints nous font toujours face, ils sont jamais plaqués sur le mur, en fait, ben c'est un plaquage de texture par rapport à la feuille. Et quand on réutilise un élément de dessin dans une autre case, un peu modifié, soit, mais quand on en change une dimension, ben le trait de dessin change aussi en épaisseur selon les éléments du décor. C'est-à-dire, du coup, ben, les yeux sont archi précis pour les personnages qui sont dans le fond, et aussi précis pour les personnages en avant-plan. Donc, on a cette espèce de faux avant-plan. C'est un peu gênant, quoi. Et c'est toute la lutte du dessinateur. Il produit un dessin parfait, trop parfait, qui n'a plus d'âme. En signe à ligne claire, c'est une épure, une précision technique, c'est aussi l'âme et l'interprétation que l'on retrouve soit au rotring, soit au pinceau, soit au feutre. Et si les amateurs de voitures anciennes seront ravis de la précision des reconstitutions de voitures, eh ben ce dessin figé pourrait aussi les empêcher de plonger dans l'intrigue. C'est un peu dommage pour cette bande dessinée. Olivier Marin et Calixte, les enquêtes auto de Margot. Le tome 3 s'appelle « Deux chevaux pour une égérie » dans la collection Calandre, je sais pas qui. À préciser quand même l'excellent dossier que l'on trouve à chaque fois à la fin de la collection Calandre, soit sur la voiture, soit sur le lieu qui est abordé, soit sur l'époque. Et là, donc, évidemment, il s'agit de la deux chevaux qui est abordée en long, en large, en travers.
Mais pas que.
Oui, bon. Hein, les plastiques de Margot. Elle a de jolis pare-chocs.
Non, non, mais je parlais des autres bagnoles, moi.
Ah oui, non, il y a plein d'autres véhicules Citroën.
La Missis, le tube, enfin, c'est pas mal, quoi.
Oui, mais voilà, t'as l'impression que c'est sorti d'un catalogue de modélisation 3D et que c'est mis en scène après pour faire une BD. Et là, c'est dommage. Voilà. Thierry Dubois au scénario, Jean-Luc Delvaux au dessin, c'est toujours dans la collection Calandre chez Paquet, et ça s'appelle Les Aventures de Jacques Gipard. Le tome 2 s'appelle Le Retour des Capucins, sauf que cette fois-ci, ce n'est plus un polar en Citroën, c'est un polar sur la Nationale 7. Enfin, la Nationale 6 ou la Nationale 7, ça fait partie du dossier à la fin, qui est tout aussi intéressant. Gipard est journaliste dans un journal de faits divers. Il prend la Nationale 6 pour aller couvrir à Dijon le procès d'Henri Polinet, tout juste repris de sa cavale. Mais alors qu'il allait arriver à destination, il apprend que Polinet s'est fait la belle. Décidant de faire étape à Saulieu pour compléter son papier, le journaliste Gipard apprend que le malfrat avait monté une bande de détrousseurs de grand chemin, les Capucins. Qu'avec le retour de leur meneur, eh ben, cette bande a repris son activité. Les attaques de diligence. Oui, en plein dans les années 50 en France. Oui, mais quelque chose étonne le journaliste. À peine revenu aux affaires, les détroussages ciblent excessivement bien leur cible. Un peu trop. Très vite, des soupçons se font et Gipard va donc essayer de retrouver le fugitif par son cercle d'amis. Un polar qui va le mener sur les chemins de traverse. Alors le dessin est jeté, mais les personnages ont de la chair, de même que les véhicules sont très bien rendus. Et oui, l'énorme différence entre la sexy Margot et Jacques Gipard, c'est que ce dernier est dessiné sur papier et cela se voit. Le dessin est plus chaleureux, dynamique.
Ah oui, y a une grosse différence. Hein.
C'est plus que flagrant. Par contre, quand on travaille au feutre et que l'on commence à être court sur les délais, et ben la différence du dessin victoriel, cela se voit un peu. Et à la fin, ça dessine de plus en plus vite. Thierry Dubois au scénario, Jean-Luc Delvaux au dessin, Les Aventures de Jacques Gipard, Le Retour des Capucins, c'est dans les collections Calandre chez Paquet. Duke Ellington, Honey Sucker Rose, petite prog spécial jazz. Thank you. The Duke Ellington on Icicle Rose. Tiens, puisqu'on en est au polar, quelle est la différence quand le Pacha est diffusé sur W9 et le Pacha est diffusé sur France 3 dans les bandes annonces?
Ah, je sais pas, j'allais dire la colorisation, mais bon.
Il est en couleur. Bah, c'est très simple, France 3 crédite Serge Gainsbourg alors qu'il apparaît que 25 secondes dans le film.
Bah oui,
chaque fois me fait rire, fois. Et W9 a eu l'honnêteté, quand ils avaient fait la bande-annonce, de ne pas mentionner Serge Gainsbourg. La musique suffit, elle est omniprésente d'ailleurs.
Ah, mais c'est la musique de fin, tu veux dire?
Non, il y est tout le temps. Requiem pour un conte, tu l'entends de bout en bout. Hein,
oui, mais c'est aussi la musique du générique de fin. Oui, t'entends le morceau en entier.
Et en fait Serge Gainsbourg apparaît parce que le Pacha arrive dans l'enregistrement pendant l'enregistrement du morceau, ça fait partie de l'intrigue. On est toujours dans le polar dans les années 60 là.
Ah non pas du tout hein. Là on est dans le polar complètement actuel. C'est le dernier bouquin de Denis Lehane qui vient de sortir, enfin il y a un mois, on va dire, en version française, bien sûr, chez Rivage Thriller, donc, et ça s'appelle Moonlight Mile. Et en plus, avec le bandeau qui va bien, qui aide à faire vendre, parce que le bandeau, il dit bien, Kenzie et Gennaro sont de retour. Alors, pourquoi ils étaient partis? Effectivement.
Oh la vanne!
Parce que... On se rappelle quand même que Denis Lehane a commencé à écrire, a commencé à être publié par une série de 5 bouquins consacrés justement à ce couple de détectives, Kenzie et Gennaro, avec tout d'abord Un dernier verre avant la guerre, puis Ténèbres, Prenez-moi la main, puis Sacré, puis Gone Baby Gone, puis Prière pour la pluie. Ensuite, il s'est arrêté dans cette veine de polar pour écrire Mystic River. Puis après Mystic River, il a enchaîné avec Shutter Island. Puis il a écrit un livre qui est un livre un petit peu à part dans sa bibliographie parce que c'est un livre composé de nouvelles relativement courtes, il y a des courtes et moyennes on va dire, il y a des nouvelles qui font 4-5 pages, il y en a d'autres qui font une trentaine de pages et il y a même une pièce de théâtre. Il y a même une pièce de théâtre dans ce bouquin qui s'appelle Coronado, donc pièce de théâtre qui a d'ailleurs été adaptée sur les montées sur les planches aux États-Unis. Et après ce Coronado, donc, qui nous a fait Un pays à l'aube, que je vous avais chroniqué ici, hein, comme Shutter Island aussi d'ailleurs, hein, entre autres. Et ça va bien. Donc on attendait bien un petit peu la suite de ses écrits à Denis Lehane en se disant bon, bah, ok, il a quand même explosé avec Mystic River puis Shutter Island. Un pays à l'aube, bon, on attend encore peut-être une possible adaptation, mais c'est quand même un sujet qui est très particulier, hein. Des émeutes dans la police et des émeutes générales, baston général dans la ville de Boston juste après la Première Guerre mondiale, 1919-1920, où on croise des personnages qui seront légendaires par la suite, tels que J. Edgar Hoover, enfin, des gens comme ça. Sujet un petit peu difficile, on va dire, et qui, bien entendu, a pour trait bien la ville de Boston, puisqu'il est de Boston, comme d'autres personnes. Et d'ailleurs, on se rappelle que Gone Baby Gone a été adapté au cinéma par un certain Ben Affleck, dont c'était la première réalisation.
Ah,
c'est le frère Casey Affleck qui reprend le rôle de Patrick Kenzie, d'ailleurs, dans ce Gone Baby Gone. Et si je cite Gone Baby Gone, eh bien, c'est parce que ça a un rapport avec ce bouquin qui va sortir, Moonlight Mile. En effet, Gennaro et Kenzie sont de retour, mais ne font plus exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont ensemble, ils sont pratiquement mariés, on va dire. Et ils ont une petite fille, Gabi, qui a 4 ans. Et comme par hasard, eh bien, vient se rappeler à leur bon souvenir, eh bien justement cette histoire de Gone Baby Gone, parce que la tante de la petite qui était partie pendant Gone Baby Gone, qui avait été enlevée et qui est le fil rouge de tout ce bouquin, tout le monde la recherche, d'abord c'est la police, puis le FBI, en dernier ressort les parents, enfin plutôt la belle-mère, Béatrice McCready, fait appel à ce couple de détectives privés pour essayer de retrouver cette jeune fille, parce que sa mère, elle en a rien à foutre, c'est une camée qui pense qu'à boire de la bière, à regarder la télé, et à s'envoyer des mecs qui viennent juste de sortir de prison. Bref, vraiment pas la maman idéale, hein, pour garder une petite fille de 4 ans. car elle a également 4 ans à l'époque où elle est enlevée dans Gone Baby Gone. Alors l'histoire est magnifique et incroyable, c'est un mélo mais absolument qui te fait tirer des larmes, quoi, tellement c'est énorme, tellement ça va loin, ce que le film ne rend pas aussi bien d'ailleurs, hein, mais enfin bon bah ok, hein, c'est un premier film donc on va surtout pas épiloguer là-dessus. Et bien cette Béatrice McCready, donc la tante d'Amanda McCready, la jeune fille, la jeune gars qui finit par être trouvée. Là je spoil, mais enfin bon, le bouquin il date quand même d'il y a plus de 13 ans, hein, okay. Donc on peut un peu spoiler quand même, quoi, hein. Donc la fille est retrouvée bien sûr, et bien 12 ans pile plus tard, c'est-à-dire bah, ça fait 12 ans en fait, hein. Je crois que le bouquin il date de 99, il me semble, Gone Baby Gone, et là on est en 2011, donc eh bien 12 ans plus tard, et eh bien cette même Béatrice McCready revient voir Gennaro et Kenzie, surtout Patrick Kenzie, qui lui continue à travailler dans une agence on va dire de détective, hein, mais qui est surtout qui travaille pour le plus offrant, hein, c'est pas forcément pour la morale et tout, alors que Kenzie a quand même une certaine morale, un certain, une certaine droiture quant aux affaires qu'il décide de prendre et quant à la façon dont il décide de s'y prendre. Et là, bon, ok, il va peut-être défendre le mauvais contre le bon, c'est-à-dire qu'il sera plutôt du côté de DSK par rapport à Nafisa Diallo, parce qu'il paye mieux, tu vois, tout simplement. Et il ne discute pas, si, à la fin il discute, il se permet quelques saillies et tout, quoi. Qu'il lui valent d'ailleurs d'être repris par son supérieur, qu'il lui valent d'ailleurs de continuer à être plus ou moins enquêteur junior, alors qu'il pourrait avoir un poste nettement mieux rémunéré s'il acceptait de rentrer dans les rangs. Enfin bon, c'est Kenzie, on le changera pas, il y a pas de problème. C'est un putain d'Irlandais, donc laisse tomber, c'est une tête de mule, hein. Il a peut-être plus quelques années en plus, il y a pas de problème, mais il a passé la quarantaine, mais quand même on ne le changera pas. Et donc cette Béatrice revient à la charge pour dire Amanda a à nouveau disparu. Alors les mecs ils commencent à rigoler, à dire non non, ça va pas recommencer, pas encore une fois et tout. Et évidemment, il se dit que bon, il y a peut-être quelque chose et tout, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'à la fin de Gone Baby Gone, justement, avant cette histoire, eh bien, Angie Gennaro et Patrick Kenzie, qui sont des amis d'enfance, au fur et à mesure des bouquins, à partir du deuxième bouquin, parce qu'elle est mariée dans le premier, mais son mec crève. D'ailleurs, c'est un enfoiré fini. Qui la tabasse, qui lui rentre bourré le soir. Kenzie, lui, c'est son pote d'enfance, il se connaît depuis l'enfance et tout, il est secrètement amoureux d'elle, ils réussissent à se mettre ensemble. Mais à la fin de Gone Baby Gone, leur couple explose parce qu'ils ne sont pas d'accord sur la manière, pas sur la manière, mais sur le fait d'avoir retrouvé cette gamine et sur ce qui va s'en suivre, en fait. Parce qu'ils retrouvent cette gamine qui était super bien là où elle était. Hein, elle est enlevée quand même par un couple, hein, qui n'avait pas d'enfant, puis, mais elle était super bien traitée et tout, pour la rendre à une mère qui est vraiment une enfoirée de première, qui picole toute la journée, j'ai déjà dit, et qui en a rien à foutre de sa gamine. Et donc, il y avait un conflit, on va dire, moral entre les deux, ce qui provoque leur rupture de couple, quoi. Bon, ils vont se retrouver dans les bouquins suivants, d'accord, ok, il n'y a pas de problème, mais ils se causent pas pendant un an, enfin bon, vraiment, c'est... très dur, très rough. Là, ils sont de nouveau ensemble, il n'y a pas de problème. Amanda refait son retour, donc il commence à y avoir au départ des tiraillements. Bon, on y va, on n'y va pas. Oui, mais tu te rappelles la dernière fois, c'est pour ça qu'on s'est déchiré. C'est un peu le bordel. Ils y vont quand même, hein, parce que il y a aussi un petit peu... Il l'explique d'ailleurs, hein, cet appel de l'adrénaline qui est provoqué par l'enquête, par la recherche et tout ça, qui ne les a jamais quittés. Et donc, ils se disent, ok, on va y aller. Et bon, bien sûr, comme dans tout bon Denis Lehen, bon, il n'y a pas de mauvais, il faut dire. Les choses vont pas se passer vraiment tranquillement, et ils vont mettre un doigt dans l'engrenage. Et ils vont tomber dans des histoires pas possibles avec de la mafia russe, avec des jeunes nanas. Je vais pas vous dévoiler l'histoire quand même parce que ça va assez loin, mais ça va peut-être pas assez loin par rapport au précédent bouquin, c'est-à-dire à la précédente série des 5 bouquins qu'ils avaient fait sur Gennaro Kenzie, qui est où il y avait nettement plus de bouleversements, nettement plus de rebondissements, on va dire. Là, l'histoire est un peu plus linéaire. On va dire, on s'attend pas à ce qui va arriver, mais quand on est dans la situation, on se dit, Ah bah ouais, pourquoi pas, après tout, hein, c'est pas si extraordinaire que ça. On a connu mieux, on va dire, de par le passé. Alors, à dire que Denis Lehen s'est un petit peu reposé sur ses lauriers, j'irai pas jusque là. Mais enfin, on sent que il utilise maintenant des ficelles, qu'il maîtrise à fond les manettes, hein, qu'il est vraiment tranquille, il a acquis une technique scénaristique vraiment nickel. Bon, faut aussi rappeler que c'est le mec qui est scénariste occasionnel sur The Wire, ouais. Sur d'autres séries de télé. Donc, il a quand même une grosse technique de ce côté-là. Et bon, on dirait que il se dit ok, il y a de la demande parce que bon, ça fait très longtemps. C'est quand même le couple de détectives qui m'a fait connaître, qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a permis d'écrire d'autres livres, des éditeurs qui m'ont fait confiance pour partir sur des trucs improbables comme Mystic River. Mystic River qui ressemble un petit peu à une histoire de Gennaro Kenzie d'ailleurs, hein, de par le ton, de par l'histoire elle-même. Shutter Island qui est nettement plus osé, ou Un Pays à l'aube qui est vraiment un roman, on va dire, un roman noir qui n'est pas un film, qui n'est pas un bouquin policier. Bien qu'il y ait des flics à l'intérieur, mais plutôt un roman noir et un roman presque historique, on va dire. Mmh. Et là, bon, bah, ok, hein, on va dire, je reviens en tout venant. À la limite, on se dirait presque que c'est un petit peu torché vite, hein, tellement on passe vite d'une situation à l'autre. Il n'y a pas de temps de latence comme
tu vas y arriver.
De situation de vraiment intense, où bon, on sait pas trop ce qui va se passer, on est un petit peu dans le flou. Là, bon, ok, ça a l'air d'assez bien rouler, tranquille et tout, pas forcément toujours dans le bien, hein. Y a souvent des histoires pas possibles, mais il y a surtout le style de Denis Lehen qui est inimitable, hein, qui fait quand même que c'est un très très bon auteur. Il y a surtout toujours cet humour qui fait partie des livres, c'est-à-dire l'humour. Les bouquins de Gennaro Kenzie sont racontés par Kenzie, hein, c'est Kenzie à la première personne qui dit je vais là, je fais ci, ta ta ta, ça se passe comme ça, c'est lui qui décrit les différentes situations. Et donc de ce côté-là, vu son humour personnel, on va dire que lui injecte Denis Lehen, il y a pas de problème, ça fonctionne tout le temps, on est là, on a la banane, même dans les situations les plus improbables, voire les plus trash, parce que c'est quand même assez trash par moment, hein. Là, il y a pas de problème, ça rentre dedans, c'est du costaud de toute façon. Et l'histoire également est, on va dire, relativement trash, parce que bon, ben, il est question d'enfants, alors justement parce que ils font le parallèle avec le fait qu'ils soient maintenant en couple avec un petit enfant, et donc que le sens de leur priorité a un petit peu changé. Hein, et ça d'ailleurs on peut le lire dans le livre à ce moment-là, quoi. Je cite, tu peux me dire qu'un individu sain d'esprit aurait envie de subir 14 interrogatoires sur les arbres en l'espace de 24 heures. Je l'adore cette gosse, mais il faut bien admettre que c'est une vraie anarchiste. Elle nous réveille quand ça lui chante, elle est persuadée que déborder d'énergie à 7 heures du matin est une qualité. Parfois elle se met à hurler sans raison, elle change d'avis toutes les 2 secondes à propos de ce qu'elle aime manger, elle fourre ses menottes, voire sa figure dans des endroits franchement dégoûtants, et on en a encore pour 14 ans comme ça au bas mot, du moins si on a la chance qu'une fac pas trop chère pour nous veuille bien nous la prendre. Enfin bon, tu vois, c'est le genre d'humour pratiqué, et au sujet de leur situation par rapport à leur vie familiale. Alors, à côté de ça, il y a également bien quelque chose qui a changé. Il y a on sent que bon, l'histoire est contemporaine par rapport à la dernière décennie, par rapport à la décennie des années 90, pendant laquelle ont été publiés les premiers Gennaro Kenzie. Et socialement, eh bien, on sent bien la différence, parce qu'il y a bien entendu également une description de la vie sociale des différentes couches de la population qui est vraiment actuelle. Et là, on est en plein dedans, on est dans le trip actuel, la crise des subprimes est passée par là, on y fait allusion bien entendu, la situation économique des États-Unis est également citée au travers de petites vannes, de petites allusions comme ça, mais qui sont toujours vraiment très très bien senties. Il n'y a pas de problème, on n'est pas dupes, hein, de toute façon, on est vraiment dans la période actuelle du bouquin. Et bon, bah, il y a toujours les petites saillies qui font partie des dialogues et qui sont vraiment très très bien senties de la part de Lehen. Dans le style, vous croyez que l'État fait mieux quand il place des gosses dans des familles d'accueil. Nous, on sait que dalle. Quand je dis on, je veux parler de nous tous. On se pointe tous à la même réception merdique, en espérant convaincre les autres qu'on est conforme à l'image qu'on donne. Et au bout de quelques décennies, qu'est-ce qui se passe ? Rien, rien du tout. On n'apprend pas, on ne change jamais. Et pour finir, on meurt. Après, une nouvelle génération d'imposteurs prend le relais. Voilà, c'est comme ça. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc et tout. Tu dis, bon, ben ok, bah, hein, y a, ça va.
Joie de vivre.
Oui, oui, joie de vivre. Hein, c'est bon, il y a pas de problème, quoi, de ce côté-là. Bon, le seul petit bémol, hein, donc, c'est, on a l'impression de, pour quelqu'un qui a déjà connu les, qui a déjà lu les autres Gennaro Kenzi, qui sont nettement plus touffus, nettement plus fouillés. On a l'impression que c'est un petit peu léger, c'est plus aérien, que ça va un petit peu plus vite, que c'est un peu plus facile. Hein, mais bon. Ça n'empêche que ça reste quand même un sacré putain de bon bouquin, avec toujours, alors de moins en moins il y a des allusions à la musique qu'ils écoutent et tout ça, hein, par rapport au premier bouquin où c'est vraiment très très fourni, où ils se lancent des vannes par rapport à leurs goûts musicaux qui sont pas les mêmes, hein, Gennaro Kenzi, hein, elle aime plutôt les trucs contemporains alors que lui il est resté bloqué sur les Stones, surtout des années 60-70, hein. D'ailleurs le bouquin s'appelle pas Moonlight Mile pour rien, parce que en plus la phrase en exergue du juste avant de commencer le texte, c'est deux lignes de cette chanson Moonlight Mile de Mick Jagger et de Keith Richards. I am just living to be lying by your side, but I'm just about a moonlight mile on down the road. Voilà, c'est la chanson d'ailleurs qu'on va écouter tout de suite maintenant, qui est tirée de l'album de Sticky Fingers. Et en plus, c'est une chanson qui est un petit peu particulière sur cet album, parce que c'est une chanson qui a été écrite en partie par Keith Richards et par Mick Taylor. Mick Jagger, lui, il a juste torché les paroles du thème, mais musicalement, c'est Mick Taylor et Keith Richards. Et pourtant, Mick Taylor n'a jamais été crédité pour cette chanson-là, il n'a jamais touché un centime sur cette chanson-là. Pourquoi ? Simplement parce qu'à l'époque, il venait de rentrer dans le groupe des Stones, donc il n'allait pas faire sa grande gueule, il n'allait pas s'imposer comme ça, tranquille. Et Keith Richards, il était trop à l'ouest, hein, pour s'occuper de ce genre de business. C'était surtout Mick Jagger qui s'occupait du business, de toute façon, comme il l'a toujours fait. Et donc, il faut quand même savoir que c'est Mick Taylor qui y est pour beaucoup dans cette chanson.
Thank you.
The Rolling Stones, Moonlight Mile. Il est 12h45 pile sur Radio FMR 89.1 MHz, c'est le Super Weekend numéro 282. Et je sais qu'il y a des fans qui nous écoutent et qui me relancent sur Twitter en me disant « Bon alors, c'est quand tu fais une chronique hentai et tout ?» Non, non, ça reste propre. C'est promis juré, c'est une émission spécialement propre.
Presque.
Mais,
presque.
Pardon. Bon, de suite, et ben du sport, nous, merde, je suis pas sur le bon focus, voilà. Du sport, et ben il va jouer
de la zapette.
Je crois que c'est que du cinéma.
Ah ouais, ah ouais. Avec
pas dans de... la séquence du spectateur aujourd'hui.
Eh oui, tout et n'importe quoi, tout simplement. Avec ce soir un seul film, un péplum sur Ciné Plus Classique à 22h25 d'Antonio Leon Viola, Massiste contre le Cyclope.
Ouais.
Avec Mitchell Gordon, Cello Alonso et Viola Silenti. Antonio
et des fonds noirs pour faire la fausse perspective et des animes et des maquettes animées normalement.
Antonio Leon Viola qui est d'ailleurs un des dignes représentants du cinéma italien d'après-guerre, d'après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il a touché à pratiquement tous les genres, dont bien sûr le péplum. Et il a également fait un autre Massiste, L'homme le plus fort du monde, la même année d'ailleurs que Massiste contre le Cyclope. Il a aussi fait Torpille humaine en 55 et il a fait Les deux vérités en 52. Alors ça, c'est un film assez particulier parce que c'est un film, comme son titre l'indique, qui explique une histoire mais vue de deux points de vue différents. Alors on a déjà vu ça un peu plus tard dans le cinéma japonais avec un certain Kurosawa. Eh oui. Mais bon, on l'avait déjà fait avant.
Pour une fois, c'est le maître qui a suivi.
Ah, ouais, mais bon, non, pas forcément quoi. Donc c'est ce soir. Demain sur France 3, 20h35. On a vu suite dimanche dernier. C'est toujours la même chose. C'est agréable, c'est jouissif. Commissaire Montalbano. Hein, c'est excellent, il n'y a pas de problème quoi, de toute façon. Alors un autre téléfilm demain soir, également inédit sur France 3, Un été ardent, de la même année que celui de dimanche dernier, c'est-à-dire 2008, réalisé par Alberto Sironi. Demain également sur Canal+ Sport, alors c'est un film tiré d'un bouquin que je vous avais chroniqué il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un an. C'est The Damned United, où le titre en français du bouquin c'est 44 jours de David Peace. Et là il s'agit du film The Damned United réalisé par Tom Hooper qui il y a pas si longtemps que ça nous a fait le discours d'un roi.
Hein? Oui.
Ben oui, ça c'était en 2009, donc il y a deux ans, avec Michael Sheen dans le rôle de Brian Clough, donc l'entraîneur qui après une carrière absolument magnifique à la tête de d'autres équipes, des clampins pas possibles, qui réussit à hisser pratiquement au sommet de la hiérarchie du football anglais, se voit embauché par l'équipe qui truste tous les titres et qui est championne en titre, Leeds United. Mais ses méthodes, c'est pas du n'importe quoi, mais enfin bon, ça change radicalement, et donc il va durer que 44 jours à la tête de cette équipe.
Ouais, t'avais chroniqué le bouquin, qui était plutôt intéressant. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que le cinéma anglais est actuellement en pleine renaissance, parce que en fait a été lancé quelque chose qui n'existait pas en Angleterre il y a 6 ans, c'est-à-dire la loterie. Le loto n'existait pas en Angleterre, et il y a une espèce de trust qui a été créé à côté, hein, c'est The National Lottery Trust, qui a donc pour obligation un investissement dans le cinéma, sachant que les chaînes avaient déjà plus ou moins une obligation. C'était surtout Channel 4 quand ça a été créé par Margaret Thatcher dans les années 80 pour faire entre guillemets concurrence à la BBC, puisqu'ils ont une obligation de service public en présentation à la minorité et aussi d'investissement dans le cinéma. Finalement, c'est surtout le National Trust qui a amené énormément d'argent et qui permet qu'il y ait beaucoup de films qui se tournent en ce moment en Angleterre avec vraiment une très grande qualité. Et des films, des fois, qui font un petit peu polémique, justement celui-ci, puisqu'il a quand même une portée un petit peu politique, hein, finalement, comme le suivant,
Discours
d'un roi.
Oui. Et tu sais pourquoi ça a jamais tellement marché, les loteries en Angleterre, quoi.
Je sais pas.
Pour une question de pognon, vu que là-bas les boîtes de bookmakers sont légales et qu'on peut parier sur pratiquement tout et n'importe quoi, surtout en priorité sur au départ hein, historiquement sur les parlant chevaux, les chevaux et les chiens donc
et les couleurs de cheveux des Spice Girls aussi
donc et maintenant non. On peut parier sur vraiment n'importe quoi
oui, c'est, donc c'est des boutiques comme des PMU hein, voilà. D'ailleurs c'est propre comme un PMU, vous avez des écrans partout et
non c'est vraiment des boutiques où il y a que c'est pas un petit coin dans un café où il y a non,
c'est loin d'être borgne hein,
c'est des super boutiques hein, vraiment quoi nickel
maintenant donc. D'ailleurs c'est tout automatisé, t'as les écrans tactiles, tu paries sur tel truc.
Et t'as plusieurs firmes qui se font concurrence en plus. Hein. T'en as pas qu'une quoi de bookmaker en Angleterre quoi. Donc avec Michael Sheen donc dans Damned United et Colm Meaney, ça il faut pas l'oublier quand même. Hein. Un mec qui réussit à être dans deux séries Star Trek, pas les mêmes, et à garder le même rôle, faut quand même le faire quoi, tu vois. Franchement quoi, pour un Irlandais, il est très fort. Il est très très fort. Ah bah si. Ouais, on en est encore. Bah ouais, encore des Irlandais. Ah là, je crois que tu peux lancer ton alerte, me semble-t-il.
Non.
Ah si. Ah non. Si. Ah là.
Non mais putain, non mais j'avais dit non pour vu l'heure, on peut pas.
Ah bah si. Allez, c'est les vacances.
Ah, tu parles, c'est les vacances.
Bah oui.
Allez, bah celle-ci. N'importe... Donc Benoît, elle est pour toi.
N'importe quelle une de magazine de People, t'as le sexe c'était sur la plage.
Tout ça pour parler de Secret Story 5.
Absolument pas. Absolument
ah bon ouf. Pas. J'ai cru qu'on allait dans le glauque.
Non, quand même. Sur Paris Première demain soir à 23h, une nuit manga érotique. Yes, avec tout d'abord à 23h 3 épisodes, pas un, pas deux, mais 3 épisodes. Des guerrières d'Asgard. À minuit. Alors ce sont des petits épisodes d'une demi-heure, 25 minutes.
C'est
quoi,
du médecin. Okay. Du médiéval fantastique.
Oui. Ensuite, avec des valkyries, les saints. On arrête. On dit plus rien.
À zéro. Sinon, contrairement à la régie qu'on avait il y a 15 ans, il n'y a pas de beeper dessus. Donc je vais essayer de te beeper à la bouche. Vas-y. Vas-y. si je peux.
Alors on va ensuite aller du côté du un peu plus malsain, on va dire, enfin ça dépend des goûts et des tendances. À 0h30, la clinique de l'humiliation. 2 épisodes. Oh oui, là il va y avoir du cul. Oui. À 1h30, ça peut être un petit peu plus rigolo, on va dire. Décolleté Luc.
Désolé. Désolé, c'était le titre, donc décolleté lubrique.
Ouais. Et à 2h du matin, 2 épisodes de échange de corps. Ouais, encore des trafics de. Non, bon, on arrête.
De fluide, j'allais dire.
Ouais, non.
Ok, ouais.
D'êtres humains.
On va encore avoir des emmerdes.
Ok, d'accord. Ouais, mais on s'en fout.
Tout le monde dehors.
Faudrait d'abord qu'il rembourse ses notes de frais.
D'accord, ok. Hein. Bon. On va aller jusqu'au bout de la montée là.
Ok, alors. On l'avait pas écouté jusque là, hein. C'est la première fois. Hein.
Si. Là, jusqu'à la montée, là, le break.
Ah oui.
Quelle horreur.
Allez, on va faire retomber le soufflet.
À la fin du break, 4 temps.
Du 4 temps, c'est du binaire. Alors, sur TF6,
pour rappel quand même, le morceau en question, donc c'est un spécial mix de Marley et c'est un ancien du réseau national Skyrock à l'époque, avant qu'il tombe dans le rap, puisqu'il faisait le hit des clubs.
Du rock, quoi.
Oui, à l'époque, enfin, c'était du rock FM et tout ça, ou du downtempo, mais pas du rap, et ils avaient un hit des clubs, et donc c'est lui qui l'a réalisé pendant 6-7 ans. Il faisait aussi, des fois, il réalisait pour Super Nana. Feu Super Nana, et donc c'est lui qui nous a fait ce morceau exclusif. Voilà.
Alors, sur TF6, c'est toujours demain soir, soirée Western Spaghetti, avec.
Miam!
3 films, pas 2, 3. Tout d'abord à 20h40, Buffalo Bill.
Un bon coulis de tomates, tu vois, tu le fais en prenant des tomates du marché qui sont un petit peu gâtées et tout.
D'accord.
Ça. D'accord,
ok. Ok, mais je connais la recette parce que j'ai vu Les Sopranos en entier.
Ouais, mais Les Sopranos, ils rajoutent des la viande.
Mais pas tout de suite.
Oui,
pas tout de suite.
Non, bon, et puis il faut la cure à part.
Oui. Toujours.
Avec des oignons.
Alors, à 20h40, Buffalo Bill, le héros du Far West, un des premiers western spaghetti en 64 de Mario Costa, avec Ronaldo Lupi et Gordon Scott. Mario Costa, qui est également un vétéran du cinéma italien, et qui a fait, au début de sa carrière, après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, de l'opéra filmé, et là il en a fait à la toque, surtout des opéras de compositeurs italiens d'ailleurs, Barbier de Séville, L'Élixir d'amour, Don Juan, Payasse, entre 47 et 51.
Non, c'est Payasso.
Oui, mais ouais, Payasse en français quoi.
Enfin, c'est pas exactement la même chose, c'est un peu, c'est l'ancêtre de Sganarelle, hein, voilà.
Oui, oui, mais bon, ouais, c'est le pendant italien en fait. Mm. Et il a fait également, bien sûr, du peplum, comme tout bon italien qui se doit, avec la bataille de Corinthe ou le gladiateur de Rome en 1962. Et il nous fait donc en 64 les prémices donc du western spaghetti. Buffalo Bill est le héros du Far West. À 22h15, de Giorgio Stegani, Adios Gringo, avec Giuliano Gemma et Ida Galli. Et à minuit, c'est pas vraiment considéré comme un western spaghetti parce que c'est filmé par un Américain avec un casting international qui tient la route quand même. C'est ce fameux Chalaco dans lequel Sean Connery a le Stetson. Et avec lui, il y a Stephen Boyd et il y a également certaine Brigitte Bardot. Donc ça vaut son pesant cacahuète, de toute façon, ça regarde.
Des pastas. Cotura al dente.
Eh ouais. Si. Lundi spécial des super grands films en noir et blanc, avec tout d'abord sur Arte un grand classique du polar à 20h40, Touch of Evil, ou La soif du mal d'Orson Welles en 1958 avec Charlton Heston, Janet Leigh. Alors le plan séquence qui tue de la mort, de l'enfer qui tue quoi. Hein, quand même quoi, le début du film là qui dure un quart d'heure et tout, enfin bon.
Enfin okay. C'est là où justement les grands plans séquences comme dans merde, je vais y arriver. Snake Eyes et tout ça, bah voilà, ça vient un peu, ils viennent de là quoi.
De là du Hitchcock aussi hein, faut le dire. Et donc il y a également Marlène Dietrich qui à l'occasion de ce film revient un petit peu au cinéma avec un rôle qui est complètement différent de ceux qu'on lui connaissait auparavant, parce que là elle joue vraiment le rôle d'une nana sur le retour des abusés, qui en a plus rien à foutre de la vie et tout, enfin bon, et qui est quand même celle qui sauve un petit peu qui garde le seul brin d'espoir qu'on peut avoir dans le film, c'est elle qui l'a quoi en fait. Également Hakim Tamirov dans le rôle du dealer de dope, Hakim Tamirov que Orson Welles connaissait parce que bon, c'est quand même un énorme acteur hein, qui a joué je sais pas quoi, avec tous les réalisateurs américains depuis le début du cinéma parlant, Hakim Tamirov a joué dans leurs films. C'est pas compliqué.
Ah oui, c'est plus simple.
Ah non, là c'est pas compliqué. Hein. Et donc il le connaissait parce qu'il jouait dans Monsieur Arkadine, réalisé également par Orson Welles en 1955. Mais Hakim Tamirov, il a commencé sa carrière cinématographique en 1932. Dans un film de Tay Garnett qui s'appelle OK America. Puis on le voit en 34 dans Les Trois Lanciers du Bengale de Henry Hathaway. La même année, L'Impératrice Rouge de Sternberg, La Veuve Joyeuse de Lubitsch.
Mais il a pas arrêté.
Il a pas arrêté. En 1960, il est également dans Ocean's Eleven de Louis Milestone.
L'original. Voilà. Celui avec le Rat Pack.
Louis Milestone, qu'il aimait bien parce que il l'avait déjà embauché pour une première participation en 1935 dans Paris au printemps. Également en 36 dans Le Général est mort à l'aube, en 1955 dans They Who Dare, Ceux qui osent, et on le voit également Hakim Tamirov bien sûr dans La Tulipe Noire de Christian Jacques.
Il y est. Il a tourné en France.
Bien sûr. Il tourne également dans les films de Cap et d'Épée avec Jean Marais. Enfin bon, on le voit également dans Top Capi de Jules Dassin. On le voit dans Alphaville de Godard. Godard qui appréciait vachement cet acteur et qui donc a tout fait pour qu'il puisse participer à un de ses films et il l'a embauché donc dans Alphaville. Et on le voit également dans...
Ah, mais c'est lui le détective, hein.
Non, le détective c'est Alphaville, c'est Lemmy Cochon, c'est Eddie Constantine.
Alors il est où dans le film?
Eh bien, Hakim Tamirov, c'est un descendant d'immigrés russes. Hein, il a un petit aspect slave et tout, ce qui fait qu'on l'a surtout vachement utilisé pour jouer entre guillemets les immigrés. C'est-à-dire dans les films de western, c'était l'Indien, dans les films de Mongol, c'était un Mongol. Enfin, moi, vraiment quoi. Bon,
typé,
okay,
quoi.
Voilà, le mec typé quoi. Hein, pas de problème. Non, mais une bonne gueule en plus, hein, vraiment. Et on le voit également dans Marie Chantal et le Docteur K de Claude Chabrol. Tu vois, donc bon, le mec, il a une putain de carrière. Il y a pas de problème. Il est mort en 1972 quand même. Hakim Tamirov, retenez ce nom. Ça c'est donc sur Arte lundi, La soif du mal de Orson Welles à 20h40. Sur Paris Première, là, deux films français qui sont des putains de grands classiques quand même. D'abord à 20h35, La règle du jeu de Renoir.
Ah ouais.
En 39 avec Renoir dedans, hein. Marcel Daliot, ouais, Marcel Daliot, rappelle-toi, le patron du cabaret dans Casablanca, qui donne la réplique à Humphrey Bogart. C'est Marcel Daliot, mon gars.
Oui, ça je sais, Nora, puisqu'il avait fait pas mal de films, justement, pour le général et tout ça, pour dire non, mais il préparait un petit peu la suite pour dire les Français ne sont pas que des gens qui se barrent, etc. Et il avait fait par patriotisme, c'était ce qu'il avait dit dans ses mémoires, il me semble.
Ah oui, 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 oui. Non, mais bon, en plus, bon, il parlait en anglais avec un bon accent français et tout. Mais
nickel.
Nickel, hein, vraiment bien, quoi. Marcel Daliot, quoi. donc, ça, c'est dans La règle du jeu. Et à 22h30, Hôtel du Nord de Carnet, hein.
Avec, atmosphère.
Voilà, la réplique qui tue d'Arletty face à Louis Jouvet. Toujours lundi sur TCM, un western et un film noir, on va dire, c'est pas vraiment un polar. Tout d'abord le western, c'est La captive aux yeux clairs de Howard Hawks avec Kirk Douglas, de Will Martin et Elizabeth Threat. L'histoire des trappeurs qui deviennent tous les deux amoureux d'une nana, donc ça a posé quelques petits troubles, on va dire, hein, quelques embrouilles. Et à 23h05, La griffe du passé de Jacques Tourneur, donc le fils de Maurice. Avec Robert Mitchum, Jan Greer, Kirk Douglas et Rhonda Fleming. Là aussi, excellent, excellent, très bon, hein, très bon film. Mardi sur TF6, eh ben retour au Western Spaghetti, hein, TF6 qui a l'air d'aimer ça, hein, tout l'été. Avec tout d'abord à 20h40, Les Colts brillent au soleil de Sergio Merole en 68 avec Andrea Giordana, John Ireland et Betsy Bell. Suivi de Ciel de plomb à 22h15. Un film de Giulio Petroni en 68 avec Giuliano Gemma, Mario Adorf et Magda Konopka. Sur Ciné Plus Classique, également un western, à 20h40, Le fleuve de la dernière chance de Jerry Hopper avec Piper Laurie et Dana Andrews. Le film s'appelle Smoke Signal en version originale, hein, c'est l'histoire d'un renégat qui a pris fait et cause pour les Indiens. Et qui donc va quand même aider les l'armée parce que il y a une embrouille, parce que il y a des braconniers qui veulent
il le fait de mémoire.
Qui embrouillent et qui veulent faire croire que ce sont les Indiens qui ont commis les sévices. Voilà quoi, c'est un truc comme ça quoi. Jerry Hopper qui nous a fait également Opération Requin en 56. Ah ouais, on aime les requins ici, alors c'est pour ça. Et qui a terminé sa carrière en 70 avec un western, Le Solitaire de l'Ouest. Mercredi sur RTL9 à 22h30, Arak Attack d'Elori El Kayem.
Oh
ouais,
non,
si. Si, si, avec une distribution qui tue de la mort quand même. David Arquette, Carrie Vouvert, Scarlett Johansson. Eh oui, elle a joué dans Arak Attack également. Bon, elle a dû se fendre la gueule également. Et une curiosité qui t'intéressera certainement, à 21h, un film co-réalisé par Georges Combray et Jacques Mallet en 67, La malédiction de Belphégor, avec Paul Gers, Raymond Souplex, les cinq dernières minutes, et Achille Zavatta. Le clown.
Puisque il était acteur, il a, comme l'était Jean Richard aussi, puisque Jean Richard aussi avait son cirque, mais sa carrière d'acteur lui permettait justement d'entretenir son cirque.
Bah, Jean Richard, il est surtout connu, pour ses rôles au grand écran, mais au petit écran. Oui, oui, c'est lui qui a tenu très longtemps le rôle du commissaire. Juste celui qui est après Raymond Souplex, de toute façon, quoi.
Pas Moulin, non, j'allais dire.
Non, pas Moulin, celui qui est juste avant.
Oh punaise, c'est pas vrai! Et j'ai l'autre dans la tête en plus avec sa verrue.
Ouais, ouais.
Oh
Eh ouais, t'en notes pas, c'est comme ça, quoi.
Ça, voilà. Bon.
C'est comme ça. Jeudi, allez, on passe à autre chose. Jeudi, du polar sur Arte à 20h40, Scène de crime, l'excellent polar de Frédéric Schoendorfer avec Charles Behring et André Dussolier, qui est vraiment très bien. avec en plus une fin un petit peu twist comme ça qui bon
elle est un petit peu ouverte hein.
Ouais ouais, alors soit on adhère et on se dit bon OK d'accord, ou soit on se dit ouais c'est se foutre de la gueule des gens. Là vraiment il peut y avoir deux opinions complètement radicalement opposées concernant la fin du film. Bon, enfin moi je trouve que c'est bien quoi, il y a pas de problème hein, de toute façon quoi. Et sur 13e rue jeudi également à 20h40 Terreur nucléaire de Jeremy Chechik avec Bruce
Greenwood. C'est pas un petit peu opportuniste, vous les avez pas achetés en catastrophe en avril dernier.
Non, Bruce Greenwood, Leslie Hope, Arnold Vosloo, James Remar quand même hein. Ça le fait hein quand même. Ouais. Ah, des terroristes qui ont investi une centrale nucléaire et qui menacent de la faire sauter. Mais heureusement, James Remar est là, Arnold Vosloo aussi, et Bruce Greenwood, bien sûr. Sur la chaîne Ciné Plus Club, jeudi prochain, 20h40, Fritz le chat de Ralph Bakshi. Ah bah ouais, ça peut le faire, hein, y a pas de problème, quoi. Ah, c'est quelqu'un qui va nous dire comment s'appelait le commissaire qu'interprétait Jean Richard. Et il va le faire tout de suite en direct. Non, il ne le sait pas. Tu vois, bah comme quoi, hein, c'est comme ça. Donc Fritz le chat, hein ?
Il y en a un qui a retrouvé, c'est bien le commissaire Maigret.
C'est Maigret, voilà, c'est ça, c'est Maigret. On l'avait sur le bout de la langue. Ouais, ouais, bah on avait le M déjà de Moulin, quoi, tu vois, quoi. Donc ça correspondait pas mal. Hein. Et d'ailleurs, il faut souligner que c'est pas lui qui a créé le rôle de Maigret au cinéma, mais qu'il y avait déjà eu un autre acteur qui, dans la série des Maigret à la télé, eh bien, avait pris ce rôle. Et Jean Richard, donc, avait repris ce rôle. Malheureusement, il est décédé, on va dire, au début des années 70. Et la série a plus ou moins été abandonnée pendant un certain temps, avant une ressucée, quoi, on va dire. Mais bon, c'est un petit peu péjoratif comme terme, mais c'est pas le cas, parce que c'est quand même des bons trucs. Qui avait été commise au début des années, dans les années 80, puis les Maigret les plus récents qu'on connaît avec Bruno Kremer, bien sûr. Je continue donc et je termine en fait avec vendredi prochain et quelques films donc à voir sur Sci-Fi à 20h45, Cortex Control de Nelson McCormick en 2003 avec Adam Baldwin, le seul que tu crois pas que c'est un frère Baldwin.
Oui, c'est vrai que c'est lui qui a pas la gueule.
C'est le seul qui a pas la gueule des Baldwin, mais enfin bon, c'est quand même un Baldwin. Avec Elizabeth Berkley, qui en fait, on la connaissait surtout pour ses rôles déshabillés dans Showgirl, par exemple, de Paul Verhoeven. Et on disait, bon, à part montrer sa plastique, qui est assez impeccable et pas encore siliconée, donc on se disait, bon, elle ira pas très loin dans la vie. Mais pourtant, elle s'avère quand même être une actrice assez excellente. Il y a qu'à voir ses apparitions dans New York Section Criminelle.
Elle est présente d'ailleurs que 4-5 épisodes. Hein, pas longtemps, mais ça suffit. Oui, ça suffit, marque bien. Elle relance bien l'intérêt de la saison, d'ailleurs. C'est pas inintéressant.
Et dans ce Cortex Control, on a également Tony Todd. Le Candyman. Donc, c'est pour ça que je me tenais à souligner la diffusion de ce film sur Sci-Fi vendredi prochain à 20h45, Cortex Control. Sinon, sur Ciné Plus Frisson, donc à 21h vendredi prochain, La prisonnière espagnole de David Mamet. Bon, un film qui m'avait bien botté à l'époque quand il était sorti en salle, en 87, hein, avec Campbell Scott, Steve Martin, Ed O'Neill, Ben Gazzara. Une histoire un petit peu compliquée.
Il faut expliquer. La prisonnière espagnole, c'est un type d'arnaque. Si vous connaissez le théâtre français, il y a un exemple parfait qui est dans L'Avare de Molière, où en fait, donc il y a quelqu'un qui est prisonnier de quelque part. Il faut payer la rançon. C'est ce qu'on dit à quelqu'un. En fait, il n'y a jamais eu cette personne qui a été emprisonnée et tout. Le but du jeu, c'est de soutirer l'argent le plus vite possible. Qu'on retrouve sur internet, vous recevez souvent régulièrement des emails de veuves nigérianes qui vous disent que elle va donner des sous, etc., mais qu'il faut sortir l'argent pour écrire des documents ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle Nigerian Scam ou le scam 419. C'est ça, la prisonnière espagnole.
Voilà. Et d'ailleurs, un certain Bernard Laporte a été victime il n'y a pas si longtemps que ça.
À sa manière, puisqu'il a avancé de l'argent pour le Stade français, pour un fonds de pension qui en fait n'existait pas. Voilà. C'est comme quoi ça arrive même aux gens très avisés.
Pas si avisé que ça, en tout cas. En tout cas, ce film vaut parce que le scénario est, c'est David Mamet, hein, ex-scénariste passé à la réalisation. Et en plus, par l'interprétation, déjà, Campbell Scott, qui joue le rôle du personnage principal, excellent. Steve Martin, qui est dans un rôle radicalement différent. Lui, on le connaissait surtout pour le Saturday Night Live Show. Et également tous les films comiques qu'il a pu faire par la suite, hein, l'histoire des parents,
les cadavres portent pas costard,
ouais, tout ça. Mais là, bon, ok, hein, c'est un film dramatique, donc et là, il y a pas de problème. Hein, on se rend compte que il sait le faire également, hein, vraiment très très bien. Ed O'Neill, bon, ok, on le présente plus, hein, y a pas de problème. Hein, c'est marié, deux enfants, mais c'est également Dragnet. Enfin, à l'époque, il avait pas fait Dragnet, mais il sortait de Marier deux enfants.
De Getting Married, donc de mec cynique et tout, avec une tronche à faire peur.
Voilà, ouais. Et là, bon, ok, également dans un rôle dramatique, on disait, bon, est-ce que ça peut passer, parce que bon, ok, hein, le mec qui sait faire, on le voit en tant que mec qui sait faire rire, mais là, bon, ok, bon, s'il joue le rôle d'un flic et tout, c'est pas tellement ça, quoi.
Et dans Friday, il fait absolument pas rire, hein. C'est dommage que la série, soit arrêtée.
Et vendredi prochain, il y a également un grand classique du cinéma, un énorme classique du cinéma, Aguirre, la colère de Dieu de Werner Herzog sur Ciné Plus Star à 21h. Donc, à recommander quand même à tous les gens qui estiment connaître le cinéma. Hein, s'ils n'ont pas vu ce film, ils ne connaissent pas le cinéma. Le TCM vous propose également à 22h55 un Rabbin au Far West de Robert Aldrich. Avec Gene Wilder et Harrison Ford. Gene Wilder qui a été un des grands maîtres du rire dans les années 60, fin des années jusqu'aux années 70. Hein. Il est mort au début des années 80 d'ailleurs. Et c'est lui qu'on voit assez souvent dans les films de Mel
Brooks.
Brooks, voilà, j'allais dire Mel Gibson.
Dans les films j'ai cru que t'allais dire Mel Blanc en fait. Hein.
Non. Gene Wilder, donc un rabbin au Far West, c'est un film rigolo. Hein, c'est assez funny à regarder.
Ça m'inquiète.
Quoi. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein, c'est un bon petit moment, il y a pas de problème. On termine avec un petit western, mais de quelqu'un qui faisait plus ou moins de la commande, on va dire à cette époque-là. Hein, comme tous les films qu'il a fait, hein, c'était un brillant artisan, de toute façon. C'est sur la chaîne Action à 21h vendredi prochain, les pionniers de la Western Union de Fritz Lang en 41 avec Randolph Scott, Robert Young et Dean Jagger.
Qui est vraiment une publicité, hein, il faut le dire, hein, mais donc c'était l'époque héroïque des diligences, pas encore des transferts d'argent si appréciés des veuves nigérianes de, pardon. On va peut-être passer au résumé, alors. Voilà. c'est vrai qu'on a eu, un coup de fil d'un auditeur sur la FM pour une fois, tiens, c'est vrai qu'on a des réactions des fois sur Twitter ou après par email et tout ça sur le différé, mais ma foi, du sport tu ne serais pas en train de te speeder pour écrire ton résumé.
Ouais, non mais je termine là.
Est-ce que tu peux résumer pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route sur la FM ou sur notre stream sur www.radio-fmr.net?
Ah bah aujourd'hui, hein, c'était vraiment dans le light, dans l'émission d'été, tranquille.
Et encore, c'était pas de la rediff, là franchement on y va, on fait du contenu. Hein.
Oui, mais bon, sans trop y mettre, quoi. Alors, il y avait quand même... dans la page BD, une critique technico-tactique de BD nostalgique. Il y avait des bémols concernant l'auteur favori de Du Sport, Denis Lehan. Il y avait des morceaux de musique avec un morceau de musique avec pas d'électronique dedans, mais d'autres morceaux de musique avec du jazz qui s'appelait pas comme ça à l'époque d'ailleurs. Et il y avait également des arnaques démontées de main de maître par notre ami Daskritch. Avec une explication détaillée de la prisonnière espagnole.
Nom d'une calande. Vous avez manqué tout ça? Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver chroniques écrites, fouiller dans nos archives. Pour jouer à des quiz stupides, laisser des commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas. Il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.fr, supplémentweekend, sans accent ni tiré, .fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Et le prochain épisode aura lieu normalement dans 15 jours. On se retrouve in a fortnight, same hour, same TV channel. Same bat channel, pardon. Excuse-moi, fallait faire quand même un clin d'œil. On pouvait, hein? Allez. Ciao, bye bye, portez-vous bien, pas trop de coups de soleil, même si n'oubliez pas de bien boire, mais avec modération, voilà. Allez, ciao, bye bye. et de suite du sport pour la grande saison de la corrida moto versus vélo.